Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission aujourd'hui très riche. Marine, bonjour.
Oui, bonjour. Alors moi, je vais vous parler de deux polars, Tout nous sépare de Thierry Cliffat, qui est également le premier rôle au cinéma de Nekfeu. On les écoutera tous les deux au micro de Cinérama. Et je parlerai également du Fidèle avec Mathias Schoenaerts.
Et puis toi, Manu, tu feras un rattrapage. Hein.
Oui, avec trois films très différents. Hein. Carré 35, le documentaire d'Éric Caravaca. Pour le réconfort, le premier long métrage de Vincent Macaigne. Et puis un petit film d'horreur, Jigsaw.
Et moi, je vous parlerai de deux films qui sont dans les salles depuis le 8 novembre, Jalouse des frères Feuquinos, et puis A Beautiful Day de Lynn Ramsey, qui a empoché deux prix à Cannes cette année.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Tout commence et tout se termine à Sète, dans le sud de la France. Une riche veuve qui continue de manager l'entreprise de son défunt mari s'occupe également de sa fille, devenue accro aux antidouleurs depuis un grave accident. Cette dernière ne trouve de réconfort qu'entre les bras de Joseph, petit délinquant pas très aimable et entraîné malgré lui dans une sombre histoire de deal. Un jour, une dispute tourne mal et voilà la mère et la fille embarquées dans un crescendo de mensonges, de meurtres et de chantage. Très attendu, en partie car le film offrait son premier rôle au rappeur Nekfeu, idole incontestée des adolescentes de la France entière, Tout nous sépare s'avère décevant sur de multiples points et pourtant tout nous rapprochait d'un bon film. Un casting certes disparate mais qui avait du sens, qui aurait pu briller par les aspérités de ses comédiens et une trame qu'Audiard n'aurait pas renié. Premier constat, le film pêche par manque de rythme, totalement abîmé par un montage trop cut qui ne laisse s'installer aucun sentiment. Les scènes paraissent tronquées, en conséquence le jeu des comédiens pourtant crédible semble faux. Et si la ville de Sète, ô combien cinégénique, sert de décor à l'intrigue, elle semble indifférée, mais alors totalement, le réalisateur Thierry Cliffat, qui montre ses chantiers et ses cités, mais qui ne la filme jamais à son avantage. Alors, est-ce un parti pris que de ne pas montrer le côté solaire de la ville ? Peut-être. Toujours est-il que cela est révélateur de la mise en scène dans son ensemble qui fonctionne sans cesse en sous-régime. L'argument de la rencontre entre deux mondes totalement différents, les riches industriels et les petits trafiquants se retrouvant piégés par un destin commun, tourne vite à vide, puisque le plaisir sadique qu'on pourrait ressentir en voyant deux bourgeoises se frotter au bas-fond prolétaire est finalement balayé par une mise en scène ultra lourde. Oh mon Dieu, deux neufs dans une cage d'escalier taguée qui n'a probablement pas été dératisée depuis 95. Oh Diane Kruger qui descend de son podium de beauté froide pour forniquer salement avec de mauvais garçons. Pfff. Tout cela tourne assez vite au ridicule au lieu d'apporter du fond à ce qui aurait dû être un très bon polar social. On aurait aimé que les relations des personnages soient davantage fouillées, exploitées, exacerbées. Le lien qui unit la mère Catherine Deneuve à sa fille Diane Kruger aurait pu être bien plus ambivalent. Le rôle de Nekfeu aurait gagné à être plus attachant, plus écrit. Et d'une façon générale, on aurait aimé une réflexion plus subtile et plus complexe sur ce qui peut séparer et rapprocher tous ces individus aux histoires et aux milieux sociaux bien différents. Légère ratée donc pour le réalisateur Thierry Cliffat, visiblement trop fasciné par son actrice Catherine Deneuve pour la diriger de façon pertinente. Tout nous sépare, c'est un petit polar trop ambitieux et paradoxalement pas assez intense pour faire date, dont vous pouvez, je pense aisément, vous passer. On écoute une partie de l'équipe du film pour nous en parler. Il y aura donc Thierry Cliffat, son co-scénariste Cédric Anger et Nekfeu alias Ken Samaras à la ville. On les écoute.
Au départ, il y avait l'envie de revisiter les codes du film noir, de les adapter à notre société et de s'amuser un peu avec tout ça pour raconter une histoire contemporaine, une histoire d'aujourd'hui. Et au départ aussi, d'écrire vraiment pour Catherine Deneuve un rôle d'héroïne, un peu comme ceux qu'on écrivait dans les années 50 pour Barbara Stanwyck, Bette Davis, Joan Bennett, enfin toutes ces actrices.
Je ne veux plus que vous voyez ma fille.
C'est important pour toi qu'elle ne me voit plus ?
Oui, très. Qui êtes-vous ?
J'avais pas vraiment envie de faire du cinéma à la base, mais le courant est bien passé, il y avait un casting incroyable, et je me suis dit que il fallait que j'essaye au moins.
Moi, je trouve que le rôle est facile, en fait.
Mais ce que j'aime, c'est que c'est quelqu'un qui prend la posture d'un, d'un maître chanteur, d'un voyou, alors qu'il ne l'est pas. Et donc, sa fragilité ressort même dans les moments où il veut être dur, etc. Donc pour moi, c'était assez, on va dire, cohérent de la jouer comme ça. Franchement, comme je ne suis pas acteur, j'ai juste cherché ce que je pouvais retrouver de lui en moi, de moi en lui, je ne sais pas. Et donc voilà, moi, je me suis accroché à ça. Quand j'étais énervé, j'ai pensé à des moments où j'étais énervé. Quand j'étais triste, j'ai pensé à des moments où j'étais triste. Plus en tant qu'adolescent, parce que maintenant je suis plus épanoui. Mais voilà. J'avais pas de technique particulière, donc j'ai juste fait ce que je pouvais.
Je suis un sale type, tu vois.
J'appelle la police.
Ah non, tu peux pas, ça. Je crois que j'ai l'air plaisanté là.
S'il y a un point commun entre eux, c'est que c'est des acteurs qui sont très instinctifs, et qui ne sont pas dans un jeu théâtralisé ou dans quelque chose où qui ne sont pas démonstratifs. Mon goût personnel, même si je peux être fasciné par certains grands comédiens de théâtre ou cinéma ou choses comme ça, c'est vrai que j'aime bien plutôt ce jeu intérieur qui n'est pas nécessairement dans la performance.
Et après, moi, est-ce que je peux être sûr que vous n'allez pas me faire chanter encore ?
Je peux pas, justement.
Je suis pas assez forte que toi.
Voilà, l'équipe du film a eu 2 minutes pour vous convaincre d'aller voir Tout nous sépare. Et Marine a essayé de vous convaincre de ne pas y aller. C'est comme ça, c'est Cinérama, c'est ambivalent. Et on va écouter maintenant la chronique sur Carré 35 de Caravaca.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui, Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Les 2 premiers plans qui ouvrent le documentaire Carré 35 invitent le spectateur à se plonger dans une histoire insensée. Alors les images en noir et blanc filmant la façade d'une vieille bâtisse selon le procédé du found footage ressemblent à celles d'une fiction horrifique accentuée lorsque la caméra s'avance dans la pénombre à l'intérieur d'une fenêtre. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'un film de genre, mais l'idée transgressive de déterrer un fantôme enfoui dans un passé scotomisé est présente. Alors ce fantôme, c'est Christine, la sœur aînée du réalisateur Eric Caravaca, dont il a appris l'existence tardivement. Une enfant cachée, décédée à l'âge de 3 ans dans des circonstances étranges. Alors Caravaca, comme dans une série noire, enquête sur sa famille pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Alors le titre mystérieux renvoie à l'emplacement où a été enterrée sa sœur à Casablanca. Il va interroger ses proches, à commencer par ses parents, pour sonder une vérité inavouable à la limite du cauchemar. Le procédé pourrait paraître indécent, mais une pudeur empêche cet implacable documentaire de basculer dans le voyeurisme. Caravaca va se rendre sur place, interroger sa propre famille, se confronter à une intimité dont il ne sortira pas indemne. Alors on sent à l'écran un travail de recherche de longue haleine entamé il y a quelques années, avant 2013 au moins, date à laquelle son père décède et à qui il donne aussi la parole. Les moments les plus forts restent l'intervention d'une mère dans la maîtrise du déni, incapable d'affronter les réels, mais son fils insiste, veut savoir, elle tient bon, ne flanche pas, elle se drape derrière un mécanisme de défense implacable mais suspect en termes de logique. Christine était juste une enfant normale victime d'un arrêt du cœur. Or, la réalité semble tout autre.
Fin des années 50, mes parents se marient à Casablanca. Sur ces images, je ne peux qu'observer les allures d'un homme et d'une femme auxquels doit arriver une grande douleur et qui ne savent pas encore.
On n'en a pas parlé beaucoup de cet enfant.
Non, mais je...
Moi, j'ai longtemps cru qu'on était quatre, deux enfants, puis finalement...
Non.
Elle parlait de qui ?
De notre petite fille qui est décédée toute jeune.
C'est quand même étrange de tout brûler. Quand on a un enfant, on garde toujours une photo.
Oui, mais pas moi. Je n'aime pas aller en arrière. Qu'est-ce que tu veux faire avec une photo ? Pleurer ?
Je vis. Nous vivons avec un fantôme.
Elle était mignonne comme tous les belles petites filles et les beaux petits garçons. Ma fille.
L'enfant que j'étais n'osait pas questionner. Ma mère a voulu oublier son enfant, tout comme elle a voulu oublier la terre d'Afrique du Nord sans jamais plus y revenir. Je sais peu de choses. Je sais que l'histoire se situe ici, à Casablanca.
L'investigation du réalisateur l'amène à repérer des failles, des incohérences dans le parcours de ses parents, des faits mystérieux. Impossible de trouver une photo de sa sœur, y compris sur sa tombe. Des dates et des noms ont été modifiés, voire falsifiés. Alors notre imagination galope par moments, imaginant les pires horreurs, alors dues au départ aux images primitives, cauchemardesques qui entament le film. Alors je n'en dis pas plus afin de ne pas gâcher le plaisir malaisant que l'on éprouve à la vision de cette enquête intime, limite introspective, pas très loin de la thérapie visant à guérir des blessures et des non-dits. Alors la belle idée du cinéaste est de mêler la petite histoire à la grande, de dériver vers ses origines, celle de la guerre d'Algérie et de la colonisation au Maroc. Alors des images d'archives, choc, nous rendent compte des horreurs commises par la France. Caravaca, aidé de son scénariste Arnaud Catherine, nous plonge dans un passé honteux qu'il relie brillamment avec son enfance et livre au final un beau film sur la mémoire réparatrice. La quête de la vérité, même si elle reste poreuse et incertaine, est toujours plus importante au déni et à l'oubli. Il aborde le sujet avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité. Les petits films en Super 8 sur ses parents avant la naissance prennent une résonance étrange, comme s'il filmait un paradis perdu, une insouciance qui allait être balayée par le drame personnel et les bouleversements politique. Alors Caravaca, comédien aperçu récemment dans Ce qui nous lie ou Les amants d'un jour, et surtout dans le cinéma de Duperron à qui il dédie le film, pêche parfois par une sensiblerie au détour de cadrages trop léchés et d'une musique enfermée dans une joliesse agaçante, n'empêche en dépit de ses menus défauts, Carré 35 est une expérience singulière, émouvant et éprouvante, et qu'il conclut par une forme d'apaisement, une vraie réussite pour ce second long métrage en fait, après Les passagers, fiction qui traitait aussi d'un décès familial.
Film donc d'Éric Caravaca, acteur attachant, film sorti le 1er novembre. Maintenant, nous allons parler d'un film qui nous vient tout droit de Cannes. Il a remporté là-bas le prix du scénario et aussi le prix du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. C'est A Beautiful Day.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Étonnant que le jury présidé cette année par Pedro Almodovar ait choisi de donner le prix du scénario à Lynn Ramsey pour A Beautiful Day. Alors non que le scénario soit bidon ou inintéressant, mais il est plutôt migrichon. La fille d'un sénateur âgée de 12 ans disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence. Alors bonjour la nouveauté, on croirait relire celui de Taxi Driver, et c'est d'ailleurs comme cela qui est vendu le film « Le Taxi Driver du 21e siècle », nous dit La Punchline. Alors si le scénario ne brille pas d'emblée par son originalité, la mise en scène, elle, est voyante. On perdrait du temps à comparer le film de Lynn Ramsey à celui de Martin Scorsese, tant les deux visions sont différentes. Mais on perdrait du temps à chercher en quoi ce film est particulièrement ancré dans le 21e siècle, comme le souligne aussi La Punchline. Car pour mener son histoire, à moins que les zooms, les travelling, le montage vif aient été inventés il y a peu, la réalisatrice écossaise n'est pas forcément dans un univers cinématographique du 21e siècle. Il y a quelque chose de très noir dans ce A Beautiful Day, titre auquel on est forcé de penser tellement l'enchaînement des situations paraît nous en éloigner. Joe, incarné par Joaquin Phoenix, c'est un tueur à gages donc, qui exécute sa besogne, un marteau made in USA à la main, avec une certaine monotonie. Sa vie, c'est un quotidien avec sa mère, ce sont des scènes d'enfance traumatiques ou de guerre en Irak qui viennent nous secouer de temps à autre, comme lui d'ailleurs, qui ne s'accommode pas de ses visions. Sur son chemin, il croise une jeune fille qu'il doit sauver, mais y parviendra-t-il ? Le film est sec, la réalisatrice conduit la maigre intrigue en s'éloignant du genre, focalisant la mise en scène sur Joaquin Phoenix et sur son corps, ce qui inclut aussi ses hallucinations. Le récit est ainsi morcelé, rythmé et parfois étouffant. Le travail de mise en scène est appuyé par une bande-son qui laisse éclater le fracas de la ville et est accompagné d'une musique électronique parfois hypnotique. Le travail sur la lumière et la beauté des plans impressionnent. L'emballage est beau, Joaquin Phoenix engraissé, barbu et ultra-violent arrive à être touchant, mais ce maudit scénario qui a obtenu un prix peut laisser perplexe. Alors il ne sert qu'à Lynn Ramsey à raconter en fait une histoire, une enfance traumatique qui en rencontre une autre dans le présent. C'est-à-dire que le personnage de Joaquin Phoenix, traumatisé dans son enfance, va rencontrer une enfance qui devient traumatique. C'est le personnage de la petite fille. Alors on écoute Lynn Ramsey, la réalisatrice, et Joaquin Phoenix qui étaient tous les deux à Cannes et qui nous parle de A Beautiful Day.
Où passes-tu ton temps ? Toute la journée.
Parfois, un film mérite d'être long. Mais dans ce cas-ci, non. Je ne voulais pas ennuyer le public ici à Cannes. Parfois, c'est pénible de regarder un film qui dure 2h30. On s'est dit, bon, on va faire un film bref, court, intense. Peut-être pour certains, le film va paraître long. Mais nous, en tout cas, c'était notre philosophie de base.
C'est fait.
L'homme a appelé. Et il veut te voir.
Le sénateur de l'État, Albert Votto, il ne veut pas impliquer la police. Il veut vous rencontrer.
On ne voulait pas mettre l'accent sur le côté trop physique de ces personnages. On ne voulait pas faire un film hollywoodien. En fait, il est très corpulent dans le film, mais en même temps, on constate qu'il est tendre en même temps. C'était un peu l'idée derrière le personnage.
Vous avez des enfants, Joe. Nina. Elle s'appelle Nina. 235 31e rue Est. J'ai entendu parler de ces lieux. Si elle est là, je la trouverai.
Il a fallu du temps pour faire le film, pour comprendre le personnage. Les choses ont beaucoup évolué pendant le tournage. Je ne voulais pas jouer le rôle d'un héros masculin. Je ne voulais pas mettre l'accent sur la masculinité. Évidemment, le personnage est très capable, mais à bien des égards, il est totalement incapable. C'est un film intéressant. La fille, en fait, sauve sa peau toute seule. C'est pas comme si le personnage masculin arrive et sauve la fille. L'histoire est beaucoup plus compliquée. Le récit est plus complexe.
McCleary a dit que vous étiez violent. Ouais, je peux l'être.
C'était un magnifique film, Taxi Driver. Le genre était très intéressant, mais je ne pensais pas vraiment à ce film en tournant le mien.
Joe, réveille-toi. C'est une belle journée.
Vous aviez la chance d'entendre Joaquin Phoenix et Lynn Ramsey pour A Beautiful Day dans les salles depuis le 8 novembre.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et là, on fait un rattrapage avec le film de Vincent McCain. Qu'on a raté.
Qu'on a raté, oui, qui est sorti donc il y a un petit moment déjà. Hein. De retour du Mexique et de New York, hein, où ils ont dilapidé la fortune familiale, Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs parents et se retrouvent dans l'impossibilité de payer les traites du domaine. Ils retrouvent leurs amis d'enfance, hein, d'origine modeste, qui n'ont jamais quitté le milieu rural. Ils vont se heurter surtout à Emmanuel, ex-prolo, nourrissant une forme de haine envers la bourgeoisie qu'ils incarnent. Alors, il veut reprendre une sorte de revanche en achetant au plus bas prix le terrain de Pascal et Pauline. L'affrontement verbal, bien sûr, peut commencer. Tourné alors sans l'aide du CNC sur une durée de 4 ans, le premier long métrage de Vincent McCain en collaboration avec sa troupe de théâtre, contrairement à ce que son titre suggère, n'a rien de confortable. Adaptation libre de La Cerisaie de Tchekhov, Pour le réconfort n'est pas un film aimable, c'est une radiographie pessimiste d'une France déchirée, perdue, sans illusion. McCain rejoue la lutte des classes à coups de joutes verbales semi-improvisées, mais renvoie dos à dos les bobos dépressifs et l'ex-pauvre devenu un arriviste de première, petit patron d'une maison de retraite. McCain fait même de la figure du prolétaire un personnage assez antipathique, névrotique et enfermé dans des carcans idéologiques. Alors on écoute un extrait, échange très sympathique entre Emmanuel et Pascal.
C'est en France, c'est dur. Hein. T'es entouré de cons, hein, qui font du jogging tous les matins, parce que c'est fun, on fait du jogging. Pays de cons, là. Toi, ta putain de famille à la con, ta putain de France, là, ta putain d'Europe, elle s'est construite sur des mecs comme moi.
T'es pauvre, tu resteras pauvre. Même si tu deviens riche, tu resteras pauvre. Tout ce que t'as rêvé d'avoir, la famille l'a eu depuis tout le temps. Donc, j'ai vraiment autre chose à penser. Mais je pense même que dans des siècles, tes descendants, ils resteront pauvres. C'est de naissance, il y a des gens qui naissent avec le pactole. Et vous, c'est pas à vous. C'est con. On pourrait collaborer, mais non. C'est pas grave d'être pauvre. Arrêtez, lâchez-nous.
Alors comme on peut le remarquer, on est davantage dans l'invective et la revendication amère que dans le dialogue. Cette morosité, elle est accentuée par une mise en scène sans relief frontal. Les couleurs sont ternes, le décor est peu attirant. Il n'y a rien de bucolique dans la manière d'observer la campagne orléanaise. McCain filme beaucoup les visages, par contre, inquiets et perdus, à l'image d'une génération de trentenaires qui ne sait plus trop où elle en est. Alors le format 1.33 convient plutôt bien aux intentions du cinéaste. Au milieu de ce film, gueule de bois, surgit une séquence bouleversante. Un punk à chien sans avenir s'interroge sur le futur, pour les générations à venir. Alors, le constat est triste, mais l'émotion pointe enfin, car jusque-là, McCaigne avait une fâcheuse tendance à regarder des gens qui se ressemblent, un peu dévitalisés, sans vie, physiquement très proches, empêtrés dans une forme de mollesse. Alors, un premier long-métrage intéressant, mais pas très agréable à regarder.
Pas forcément, mais en tout cas, ça donnera l'occasion, ce film, de jouer dans une prochaine émission, un blind test spécial Vincent McCaigne.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et on passe donc aux fidèles. Quand Gigi rencontre Bibi, ça pourrait être le titre d'une comédie des années 70 avec Michel Blanc, mais non, c'est le postulat de départ du fidèle. Gigi, c'est Mathias Schoenaerts qui va commencer à vivre une passion dévorante avec Bibi, interprétée par Adèle Exarchopoulos. Alors, la passion dévorante est traduite à l'écran par le fait qu'ils chantent Dalida ensemble, quand même, je tenais à le préciser. Voilà, c'est la vision du réalisateur. Alors chacun recherche l'adrénaline à sa manière, elle en conduisant des voitures de course et lui en braquant des banques. Sauf que dans son cas, à lui, bien sûr, c'est un secret qui va devenir de plus en plus dur à garder. Car en effet, Gigi est fidèle, voire borné, fidèle à ses complices de toujours, mais aussi fidèle à celle qu'il aime, au point de se retrouver empêtré dans une situation toujours plus cauchemardesque.
Tu vas te rendre, ok?
De quoi tu parles?
Ils savent que t'es là et tu vas pas résister, Gino. Qu'est-ce que tu fais?
Gino, fais pas ça. Gino!
On se souvient encore de la claque Bullhead en 2011, premier film remarqué de Michael R. Roskam, fort d'une noirceur sans fond, d'une intensité brute et surtout habité par un Mathias Schoenaerts iconique dont c'était le premier rôle. Depuis, le réalisateur a refait équipe avec l'acteur lors d'une échappée américaine pour le film noir Quand vient la nuit, et il revient en terre belge avec Le Fidèle. Le choc attendu n'est pas là, le film n'est pas aussi graphique qu'on aurait pu l'espérer, la tension ne prend pas autant qu'elle le devrait, le rythme adopté est assez déroutant car le réalisateur s'occupe trois des ellipses qui n'ont souvent pas lieu d'être et qui pourraient presque parfois passer pour de la paresse. On retrouve dans cette tragédie en trois actes les thématiques du secret, des traumas de l'enfance, présentes déjà dans Bullhead, mais en moins bien développées. Et puis les personnages sont intéressants quand même, hein, et pour cause, le personnage de Gigi par exemple a été écrit en 4 ans par le comédien et le réalisateur. L'interprétation est parfaite, mais eh bien, ça ne prend pas. Voilà, il manque une intensité justement qu'il y avait dans le premier film du réalisateur, mais qui n'est plus là. Dommage.
Et nous passons à Bien Jalouse.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Après La Délicatesse, voici le nouveau film des frères Feuquinos, soit David et Stéphane. David étant l'auteur, dont certains romans ont été couronnés par le Renaudot notamment. Mais ici, avec Jalouse, il s'agit d'un scénario original. L'avantage de le confier à un écrivain, c'est que les dialogues ne souffrent d'aucune imperfection, que toutes les virgules sont en place. Jalouse dresse le portrait d'une femme, Nathalie, abordant la cinquantaine, rongée par une crise soudaine. La jalousie, évidemment. Pour faire simple, Nathalie trouve insupportable le bonheur des autres. Le mal a pris soudainement chez cette prof de lettres enseignant sa matière en cagne. La première victime est sa fille parce qu'elle est belle, parce qu'elle pourrait bientôt intégrer l'école du ballet de l'Opéra de Paris. Insupportable quand les possibilités de faire de même sont restreintes. C'est même encore plus facile de dénigrer le talent de l'autre en considérant son art comme mineur, ce qu'elle ne manquera pas de faire quand même.
Je comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse.
C'est fou comme elle danse bien.
Les autres n'étaient pas terribles, hein, remarque.
Une deuxième victime sera trouvée au boulot quand une jeune collègue débarquant du monde de l'édition arrive avec plein d'idées, insupportable quand on a pris ses petites habitudes avec les collègues et les élèves. Alors le mieux est encore de calmer les ardeurs et la bonne volonté de l'intrigante.
Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste.
Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition, franchement ?
Tu n'as pas à commenter mes décisions.
Elle est toujours comme ça ?
Une autre victime pourrait être son amie de toujours, qui est encore mariée après plus de 20 ans de vie commune, quand Nathalie vit seule et voit son ex-mari en compagnie d'une plus jeune qu'elle. Ah, insupportable, surtout quand elle repense à l'horizon que lui donnait son ex-mari ses week-ends à Dijon.
Je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie.
Il est venu avec elle.
Bah, c'est sa femme.
On part bientôt, on m'a dit.
Ah, moi tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse.
Alors on l'entend, hein, c'en est trop, et plutôt que de réfréner sa fièvre jalouse, Nathalie la laisse envenimer les relations avec son entourage. Mais qui peut-elle, puisqu'elle agit de manière incontrôlée et impulsive? Alors pas facile pour les réalisateurs de choisir un tel personnage, même si la méchanceté est aussi un moteur de comédie, hein. Il n'empêche qu'il faut tout de même susciter de l'empathie auprès du spectateur avant qu'il ne sature tout à fait, car à bien y penser, les actes de Nathalie sont insupportables, hein. Les deux réalisateurs parviennent pourtant à nous intéresser à cette crise particulière sans s'emparer d'un cliché, si ce n'est que cette crise de jalousie jalousie est le symptôme d'une femme qui regarde sa vie, hein, chose qui peut être source d'une plus grande souffrance à 50 ans plutôt qu'à 30. Les réalisateurs s'attachent non seulement à nous montrer les fissures de leur personnage principal, ses souffrances, ses attaques, sa perte de contrôle, mais ne se privent pas non plus de laisser la place à des personnages secondaires qui ne sont pas seulement des faire-valoir. L'entourage est indispensable pour équilibrer cette comédie psychologique à l'humour parfois féroce, teinté de mélancolie, qui déroule des situations très réalistes, simplifiant l'identification où la paranoïa tient parfois une bonne place.
J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe.
Pardon de vous couper, Madame Péchou. Je suis généraliste.
Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non ?
Avec Jalouse, le mérite des frères Foichino, c'est de s'emparer d'un sujet pas courant quand il s'agit d'explorer les tourments de la cinquantaine. Regardez le très bon Aurore de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui. Nous placer aux côtés d'une cinquantenaire et de sa ménopause, ne se résignant pas à la casse. Et puis dernièrement, Un beau soleil intérieur de Claire Denis nous laissait entrevoir une Juliette Binoche tourmentée par l'amour qu'elle ne pourrait plus toucher. Alors peut-être que Karine Viard, capable d'être facilement cassante et attendrissante, est pour beaucoup de l'acceptation de ce personnage, hein, capable d'être odieux et qui devra faire son chemin pour se réconcilier avec les autres. Jalouse de David Foichino et Stéphane Foichino est dans les salles depuis le 8 novembre.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Le jeu est simple. Les meilleurs le sont toujours. Vous voulez survivre ? Respectez les règles.
Après les bonnes blagues, hein, saucisses et saucettes, il était nécessaire pour la franchise de revenir à un concept plus sérieux, au moins pour les titres. Alors ce huitième saut, hein, qui n'a rien à voir avec le septième saut, ce n'est pas la suite non plus, hein, sort donc en période post-Halloween. Le serial killer John Kramer, je vous le rappelle, ne tue jamais personne de ses propres mains, particularité vicieuse d'un type qui crée les plus invraisemblables situations pour que les victimes se zigouillent entre elles dans d'atroces souffrances pour le bien de l'humanité et le plaisir masochiste du spectateur écœuré ou satisfait selon son endurance. Alors après 10 ans d'absence, hein, Jigsaw est de retour, sauf qu'il est mort et enterré depuis ce temps. Ce qui interpelle la police, très futée, hein, qui pense rapidement à un imitateur. Pour résumer, des meurtres similaires à ceux de Jigsaw, le tueur au puzzle, déroute la police qui piétine grave. Un nouveau jeu débute, la grande question métaphysique que soulève cet ultime, on l'espère un peu, épisode est la suivante. Kramer est-il à l'instar de Christophe Lambert dans Highlander ou Jason Voorhees dans Vendredi 13, un être immortel, revenu d'entre les morts pour tourmenter toutes les âmes qui pêchent chaque jour dans le monde ? Ou bien s'agit-il d'un copycat poursuivant d'autres ambitions ? Alors dès les premières minutes, sans rien dévoiler de l'intrigue, Jigsaw accuse de sérieux problèmes d'écriture invalidant l'une des deux théories. Si on a eu quelques thrillers horrifiques, au moins deux, dans sa vie, on devine au bout de 15 minutes l'identité de l'assassin. Sauf qu'une surprise de taille vient bouleverser cette conviction, à moins que ce ne soit une supercherie pour mieux nous faire avaler un twist évident au début, moins au milieu et re-évident à la fin. Alors construit, vous l'avez compris, autour d'un scénario à la fois retors et sans finesse, Jigsaw se révèle néanmoins supérieur à la plupart des sauts pour une raison très simple. Derrière la caméra, il y a des vrais cinéastes qui n'agitent pas frénétiquement leur caméra sur des images verdâtres comme ce tâcheron de Boozman qui porte bien son nom. C'est le cinéaste de 3-4 sauts précédemment. Michael et Peter Spearing ont réalisé d'ailleurs deux bonnes péloches horrifiques, Undead et Daybreakers, mais surtout un formidable film de SF, Prédestination. Les frangins soignent l'aspect formel, se débarrassant des tics visuels habituels. La caméra est posée, ne tremble pas, la photo lisible dans les séquences les plus sombres instaure une petite ambiance claustrophobe efficace. Alors rien de très pertinent, mais assez pour ravir l'amateur de frissons à bon marché, qui en plus en aura pour son argent question meurtre sanglant. Alors Jigsaw est au final un produit efficace, hein, qui remplit le cahier des charges avec une certaine élégance visuelle si l'on passe sur les incohérence béante du scénario et puis pire, sa morale assez moralisatrice.
Eh bien merci d'avoir parlé du dernier film de Boozman.
On court après un mort.
C'est un imitateur.
Vivre ou mourir. À vous de choisir.
Vous savez ce qui se passe si on ne respecte pas les règles.
Le sang trouvé sous les ongles de notre victime est celui de John Kramer, le tueur au puzzle.
C'est impossible.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Cette semaine, nous avions deux interviews. La semaine prochaine, nous reviendrons, mais avec un blind test, et nous aurons vu des films.
Et moi, je vous parlerai de En attendant, Les Hirondelles, un film algérien présent à Cannes.
Et moi, The Foreigner, avec Jackie Chan.
Qui n'a pas perdu la forme.